Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, ce sont vos idées que nous voulons mettre en avant car ce sont elles qui font avancer le monde et c'est encore plus vrai peut-être en cette période de crise, une crise qui dure et qui nous fait nous poser de nombreuses questions sur l'après. Aurons-nous par exemple des vacances? Pourrons-nous partir? Si oui, dans quelles conditions? Un conseil interministériel est prévu le 14 mai sur le sujet, mais d'ici là, le secteur s'organise et Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait savoir qu'on n'aurait pas vraiment de choses sûres avant le début du mois de juin. On va le voir d'ailleurs tout au long de cette émission. On va aussi vous donner des éléments clés pour ce faire. Elisabeth Assayag est à mes côtés. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Nous allons passer en revue les options qui s'offrent à nous aujourd'hui pour penser invitation sûr. Au voyage. Mais d'abord, peut-être une première question pour vous, Elisabeth. On en est où avec nos vacances? Vacances ou pas?
Alors, évidemment, là, au moment où on parle, tout est encore un petit peu flou et les professionnels du tourisme redoutent carrément un été sans vacances. Parce que, et les autorités ont raison, la priorité aujourd'hui des priorités, ça reste la non-propagation du virus. D'un autre côté, il faut penser à l'économie, à l'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré ce matin le président de l'Association française des experts du tourisme. Il était l'invité d'Europe 1. Il a dit... Là, ce qu'il faut aussi, il faut penser à l'économie et à l'emploi parce que le tourisme français, ça génère 1 million d'emplois directs et 1 million d'emplois induits. Et à l'heure qu'il est, certaines entreprises sont aujourd'hui au bord du gouffre parce qu'elles ne savent pas si elles pourront fonctionner ou non cet été. On va le savoir dans les tout prochains jours. Là, les choses sont en train de se dessiner de petit à petit. Et évidemment, tout dépend de la propagation du virus.
Oui, et on comprend cette inquiétude. On va voir justement ce que le secteur est en train de mettre en place pour essayer de limiter la casse, si j'ose dire. Bonjour Jérôme Mercier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de camping.com. Le camping, c'est quelque chose comme près de 800 sites en France, je crois. Or, aujourd'hui, pour ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, il y a, comme pour le reste du secteur, finalement, beaucoup d'incertitudes. Du coup, pour préparer une éventuelle arrivée des vacanciers, vous avez créé une charte Camping Clear Care. Qu'est-ce que c'est que cette charte, au juste? Qu'est-ce qu'elle recouvre?
Alors les campings en France c'est 8000 sites. On pense qu'on est la meilleure solution post-confinement pour permettre aux Français de prendre un vrai bol d'air, notamment parce que d'abord c'est un excellent rapport qualité-prix, mais aussi finalement on offre des solutions d'hébergement qui sont bien espacées avec des mobil-homes, avec des cuisines privées, mobil-homes complètement équipés avec cuisine privée. Avec des terrasses privées également, mais on a voulu aller beaucoup plus loin en accompagnant nos clients qui nous ont dit très tôt, d'ailleurs dès le début du confinement, qu'ils souhaitaient partir en France. 9 familles sur 10 nous disent aujourd'hui qu'elles veulent partir en France. Donc c'est pour ça qu'on pense à un tourisme tricolore cette année, mais aussi 9 familles sur 10 nous ont dit que finalement, les règles sanitaires renforcées prises par les hébergeurs seraient un vrai plus dans leur processus de réservation.
Donc il fallait absolument garantir ces mesures sanitaires irréprochables dans les établissements qui vont signer la charte ou qui ont déjà signé cette charte.
Oui, alors si vous allez aujourd'hui sur campings.com, vous avez la possibilité de rechercher parmi plus de 2500 établissements les hébergeurs qui se sont engagés à prendre des règles sanitaires renforcées concernant les règles de distanciation sociale, mais surtout sur les règles sanitaires de nettoyage des parties communes, des mobil-homes. Certains même s'engagent à attendre 24 heures entre l'arrivée de familles pour laisser suffisamment
entre le départ
de temps
d'une famille et l'arrivée
nettoyer.
D'une nouvelle famille pour qu'il y ait
Exactement.
Un turnover sécurisé. Et 2 heures, je crois, entre deux réservations, c'est-à-dire?
En fait, l'idée, c'est de laisser suffisamment de temps pour aller vraiment prendre tout le temps nécessaire pour nettoyer en profondeur les hébergements, laisser suffisamment de temps pour qu'il y ait une bonne ventilation des hébergements et de donner vraiment toutes les garanties d'hygiène de prévention, de protection, et c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre en engageant le marché à signer cette charte que l'on retrouve aujourd'hui sur notre moteur de réservation. Il y a un filtre qui est d'ailleurs très très utilisé aujourd'hui par les familles qui commencent à revisiter notre plateforme pour anticiper et se mettre en ordre de marche pour pouvoir booker leur réservation
d'autant précise que vous avez aussi un système qui s'appelle déconfiné ou remboursé qui va permettre effectivement si le déconfinement n'a pas lieu ou si nous sommes reconfinés effectivement de récupérer l'argent versé. Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une entreprise française qui met au point une solution aussi pour les campings.
Oui, c'est Osmoki d'Osmosis. Elle permet de pouvoir accueillir les vacanciers et tout en limitant les contacts. Comment ? Parce que Osmoki, on entend le mot key, c'est une serrure connectée qui facilite l'accès au logement via un code personnalisé. Et donc, ça permet d'offrir un accueil qui est totalement dématérialisé. Ça pourrait également aider les personnes qui louent ou qui travaillent dans des campings ou qui louent des appartements.
Alors, on était en train de parler de camping, on va évidemment se tourner vers l'hôtellerie aussi, parce que la problématique finalement est la même. Bonjour Jean-Philippe Cartier.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le président du groupe H8 Collection, merci d'être avec nous, on vous a déjà accueilli dans la France Bouge. Vous avez toujours, vous, fait le choix d'avoir des établissements en France, en proximité, d'investir en France. Or, cette année, ce qui se profile, c'est qu'effectivement, les Français, s'ils ont des vacances, vont rester dans l'Hexagone. Malgré tout, il y a une inquiétude, les réservations sont à zéro ou frémissent un peu?
Les réservations frémissent, non, les demandes d'information... afflux, il y a beaucoup d'appels. C'est vrai que nous, on a privilégié des hôtels comme le Mont-Blanc, Haute-Savoie, la Bretagne, la Côte de Granit Rose. Il y a une appétence, on ressent des Français à bouger. On pense que malgré tout, ce confinement leur donne encore plus envie de bouger. Ce qui a été un frein, et je comprends la logique sanitaire, mais absolue à l'enclenchement des réservations depuis quelques temps, c'est la limite des 100 km qui a été, qui reste, si vous voulez, une épée de Damoclès où les gens se disent si on ne peut pas bouger, si cette limitation de 100 km reste encore dans un mois. Bon, nous, on prend le pari que cette limitation va sauter d'ici la fin du mois de mai, début du mois de juin. Mais je pense que plus vite ils peuvent la faire sauter, plus vite dans l'esprit des gens, ça accélérera le processus de réservation.
Vous savez aussi que si l'ouverture se fait, elle se fera sous conditions. Du coup, vous avez dû repenser finalement l'aménagement intérieur de vos hôtels. Il n'y aura pas probablement... de buffet pour le petit déjeuner, par exemple.
Écoutez, je vais vous dire, on entend tout. C'est comme depuis 3 mois, on est tous un peu médecins, mais tout le monde est un peu hôtelier, depuis aussi un mois. On entend tout et son contraire. Pour l'instant, nous, on a des hôtels plutôt haut de gamme, comme vous le savez, chez H8 Collection. Oui. On a un peu de mal à se projeter dans cette logique sanitaire, puisque on entendait encore quelques jours auparavant qu'il y aurait 4 mètres carrés par client, par piscine. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas très évident de gérer les 4 mètres carrés par client par piscine, qu'il faudrait un temps suffisamment important pour une salle de soins, pour que quand un client fait un spa, par exemple, ou un massage. Donc toute cette, nous, on est en train de gérer toute la partie distanciation. On a des hôtels assez grands, donc pour la partie hébergement, c'est facile. Pour la partie accueil, c'est facile. Pour la partie restauration, on a la place qui nous permet. Mais de manière plus globale, c'est vrai qu'on attend de voir avec précision ce qui va se passer début juin. Moi, je me suis posé la question à titre personnel et beaucoup d'hôteliers qu'on n'entend pas d'ailleurs, quand des hôtels relativement haut de gamme en France se posaient la même question d'ouvrir il y a encore 15 jours. Est-ce qu'on est capable
certains restent fermés d'ailleurs.
La question peut se poser parce que nous, on vend une expérience. C'est ce que j'ai pu dire. Il y a M. Bazin, dans la partie plus hôtellerie d'affaires ou économique, elle ne vit pas la même chose que l'hôtellerie haut de gamme qui est une hôtellerie d'expérience. Donc, faut pas que ça devienne encore une fois l'impression d'aller à l'hôpital. Donc, on est en train de résoudre à peu près ces problèmes. On pense ouvrir à la fin du mois de juin l'ensemble des hôtels du groupe H8. Il faudrait que les réservations démarrent. Je pense que dès lors qu'il y aura des précisions claires de ceux qui nous gouvernent, bon, à partir de ce moment-là, on va pouvoir avancer. Mais il est vrai qu'on se posait encore la question de rester dans le cocon, on n'aime pas ce mot-là, parce qu'on est des gens qui aiment travailler, mais dans le cocon des mesures actuelles qui sont finalement plus protectrices. Il ne faudrait pas que de réouvrir soit encore plus dangereux et plus mauvais pour nos affaires et nos finances que le fait d'avoir été fermé. Pour autant, on ne peut pas laisser nos équipes sans travailler. Nous, on a beaucoup de CDI parce qu'on a beaucoup d'endroits ouverts à l'année et il est vraiment temps de reprendre le travail, c'est une évidence. On a d'autres interrogations, on a des restaurants, vous savez, on a une plage à Saint-Tropez, mm-hmm. à Ramatuel, avec le restaurant Loulou, on a
la même logique. Se pose la question des plages aussi, effectivement.
Absolument pas, je représente beaucoup de gens qui ont des plages à Saint-Tropez, on en parlait. Personne ne sait où on va, voilà. Ni les préfets, ni aujourd'hui le maire de Ramatuelle, tout le monde est dans le flou, on peut complètement le comprendre, mais ça devient des situations assez anxiogènes pour nos métiers quand même.
Elisabeth, une question.
Nombreux investisseurs.
Oui, vous disiez que vous envisagez, ce serait envisageable de décider de ne pas ouvrir, c'est-à-dire vous pouvez renoncer à cette saison.
Écoutez, la question s'est posée il n'y a pas très longtemps. Moi, à titre personnel, j'étais pour une fermeture. J'avais calculé financièrement ce que je perdais en maintenant fermé l'ensemble des hôtels de mon groupe. C'était un calcul qui se faisait. La question qui se posait, c'est est-ce que les réservations vont être au rendez-vous ? Aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune réponse. Ça frétille, ça téléphone. Mais si je vous donne le carnet de réservation, nous, on est des hôtels, on est à quasiment 90% au mois de juillet, 95%, 98% au mois d'août. Aujourd'hui, on est sur du 20-30%, voyez, avec des conditions d'annulation à l'avantage du client, ce qui est tout à fait normal au regard de la situation. Donc, soit il y a des... Encore une fois, on ne peut pas appliquer à des hôtels de 35-40 chambres de luxe des conditions d'un gros porteur d'hôtel d'affaires de 180 chambres. Voyez, on ne fait pas la même expérience, on ne fait pas la même chose, on n'a pas les mêmes espaces. Donc moi, j'attends...
Donc, l'un dans l'autre, ce serait possible.
Pardon ?
L'un dans l'autre, quand vous faites vos calculs, vous vous dites, si les conditions sont aussi drastiques, je peux fermer.
Ça serait complètement possible. Ma logique dernièrement qui évolue, je fais un pari d'ouverture à la fin du mois de juin parce qu'on a aussi besoin de se remettre au travail et je pense que nos actifs ont besoin de vivre. Vous savez, un hôtel qui ne vit pas pendant 5, 6, 7 mois, ce n'est pas non plus très bon pour l'actif. Les équipes également ont besoin de se remettre au travail parce que il y a un moment donné, ça devient important. Mais c'est un calcul qui fait qu'on a été nombreux à échanger, notamment dans le secteur du haut de gamme, sur est-ce qu'on va être capable de gérer des hôtels avec les conditions sanitaires. Donc moi, j'attends avec une énorme impatience, même si j'ai accès à un certain nombre d'informations puisque je m'intéresse beaucoup à mon secteur, qui laisse à penser que on devrait être capable d'ouvrir pour cette saison. Et il faut impérativement que les Français qui vous écoutent jouent le jeu de la France, qu'ils n'aient pas peur d'aller dans nos hôtels.
Oui, je pense qu'ils vont jouer ce jeu de la France. Hein. De toute manière, je crois que malheureusement, on n'a pas forcément le choix d'aller bien loin en voyageant.
Exactement. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller à l'hôtel. On fera le nécessaire pour les accueillir dans parfaite sécurité et dans des conditions comme l'art de vivre.
On compte sur vous et puis les choses vont se préciser évidemment dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Merci d'avoir été avec nous. 13h17, La France bouge continue. Europe 1. Et si nous ne pouvions pas vraiment partir, certains, vous allez le voir, ont aussi décidé d'anticiper. Ils ont créé ce que l'on appelle aujourd'hui des voyages confinés.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Sur Europe 1, nous sommes tous dans l'incertitude quant aux vacances qui se profilent. Où allons-nous pouvoir aller? Dans quelles conditions pourrons-nous voyager? Même si nous ne voulons pas y penser, il est aussi possible que nous ne puissions pas le faire. Alors, des initiatives ont vu le jour pour nous aider à nous échapper autrement. Bonjour Sophie Soubiel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Vous êtes...
Très bien, très bien. Vous êtes la super. Cofondatrice de Confine à Nîmes. Vous avez mis au point le premier club de vacances confiné. L'idée, en fait, est née sur le réseau avec d'anciens salariés à la fois de Jet Tour et de Thomas Cook. Vous avez décidé finalement de faire ce que vous saviez faire, c'est-à-dire proposer des services d'animation.
C'est ça. On a décidé exactement de faire ce qu'on savait faire à un moment donné où on était un peu tous confrontés à une nouvelle situation à vivre puisque le confinement était annoncé. Du coup, il fallait continuer à exercer notre métier alors que, comme on l'entend bien depuis le début de l'émission, en termes de tourisme, c'est compliqué et notre métier est complètement lié au tourisme. On a eu besoin, je pense, comme tout le monde, de se sentir utile. Et puis, on a voulu aussi, à notre manière, apporter du soutien et au secteur du tourisme qui connaissait un moment difficile avec le rapatriement des clients, des animateurs que nous, on avait pu connaître quelques mois auparavant de par la situation de la société pour laquelle on travaillait. Et puis, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de morosité qui commençait à s'installer. Et notre métier, étant un métier qui est là pour donner de la joie et de la bonne humeur, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle avec notre savoir-faire pour contribuer en fait, à ce moment qu'on est en train de vivre du confinement.
Donc, vous nous avez donné des animations au quotidien pour animer les foyers comme un avant-goût de vacances, finalement, avec une ambiance festive, comme si on était dans un club.
C'est ça, Exactement. Au même titre que dans un club de vacances, les gens peuvent retrouver un programme d'animation qui a lieu 7 jours sur 7, de 10h30 jusqu'à la soirée. Pour petits comme pour les grands, on va mêler du sport, on va mêler des initiations à la danse, des ateliers de cuisine et surtout beaucoup de découvertes pour que les gens puissent voyager. C'est des choses qu'on fait beaucoup dans l'animation en hôtel club, découvrir des cultures, découvrir des savoir-faire, des mets typiques, des odeurs, des senteurs. Donc voilà, à travers donc ces activités, l'idée c'est de pouvoir proposer de l'évasion depuis son canapé, et puis des activités sportives en mode confiné.
Et alors, le club a été créé le 23 mars. Vous avez combien de personnes qui participent aujourd'hui, des familles, hein, manifestement, avec des enfants notamment?
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a au total, en termes de membres, on est sur un groupe avec 4455 membres. Donc les membres, c'est ce que vous pouvez rattacher dans votre esprit aux clients en fait de l'hôtel. Et puis après, en termes de gens qui participent, on commence à être sur un gros nombre, puisque on a une grosse équipe d'animation qui se compose de 14 animateurs. Et en plus de ça, on a effectivement des intervenants qui viennent un petit peu de plusieurs domaines et de partout en France. On a aussi des animateurs qui sont confinés à l'étranger, puis en Afrique, sur la Tunisie, sur l'Italie, et qui participent également à ce programme. Et puis, comme on voulait tenir un petit peu cet état d'esprit de l'hôtel club, vous savez, c'est assez répandu, il y a un moment donné du séjour où, en fait, ce sont les vacanciers qui deviennent les stars, puisque ce sont eux les vraies stars, de toute façon, des vacances. Et là, c'était la même chose sur Confine à Nîmes. On a terminé 2 semaines de nos super confinés. Donc là, on a eu l'immense surprise et surtout la grande joie de voir le nombre de personnes qui se sont manifestées, qui voulaient participer à l'aventure, jouer le jeu et proposer des activités. Et on a même eu un programme qui était encore plus chargé que quand c'était seulement les animateurs.
Écoutez,
donc c'était vraiment chouette.
Ça promet, en tout cas ça va durer encore cette semaine et peut-être même un peu plus, on verra. Elisabeth, ça me fait penser que dans le tourisme, il y a énormément de saisonniers. Est-ce qu'on sait comment ça va se passer pour eux cette année ?
Là aussi, hein, c'est encore un petit peu le flou, hein, parce qu'ils tapent sur une reprise de l'activité cet été, ce serait bon pour eux. Mais d'après les derniers chiffres qui ont été diffusés hier, hein, sur la plateforme Capas, une plateforme qui diffuse des offres d'emploi, apparemment ça ne pourra pas être durable, parce que les offres d'emploi pour la période ont explosé ces derniers temps. Il y a plus de 250 000 demandes d'embauche de saisonniers qui ont été répertoriées. Évidemment dans l'agriculture, hein, on en a parlé énormément, dans la logistique, dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, dans l'hygiène, dans la propreté. Mais quand on parle de saisonniers, on pense aussi aux plagistes, aux saisonniers qui travaillent dans les bars pendant l'été, dans les discothèques, sur la plage, même les maîtres nageurs sont parfois saisonniers. Et là, à l'heure qu'il est, c'est là aussi, ça reste très flou, et il y a beaucoup de demandes, mais on ne sait pas encore si ce sera ouvert.
Alors, voyager sans bouger, c'est aussi, vous l'avez compris, hein, une option qui se dessine. Nous sommes en ligne avec Béatrice Perlong, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Personal
Merci
Traveler. Vous proposez, vous, des sessions interactives de voyage avec des guides locaux. C'est vrai que l'activité voyage étant à l'arrêt, vous avez décidé de proposer via un écran une sorte de visite virtuelle. On n'est pas dans le documentaire. C'est le guide, hein, qui est de l'autre côté, qui peut du coup interagir et nous expliquer les choses comme si on y était.
Voilà, tout à fait. Chez Personal Traveler, nous venons de lancer le voyage virtuel. C'est-à-dire qu'on propose de voyager virtuellement via des sessions interactives en direct avec des guides locaux francophones d'exception avec lesquels on a l'habitude de travailler habituellement. En fait, Personal Traveler, c'est une start-up qui est à l'origine d'un nouveau concept de voyage sur mesure et solidaire. L'idée sur personal-traveler.com, c'est de mettre en relation des voyageurs avec des personnes de confiance francophones qui habitent sur place. Donc en fait, ces personnes partagent leurs bons plans et leurs conseils pour voyager de manière authentique et responsable. Aujourd'hui, comme on ne peut plus voyager comme on le fait d'habitude, l'idée c'est de permettre de continuer au plus grand nombre de s'évader, de découvrir d'autres cultures malgré la situation que nous connaissons, malgré le confinement.
La première session était sur l'Égypte, je crois, sur les pyramides.
Voilà, exactement. En fait, on a lancé nos premières sessions sur l'Égypte. parce qu'on a une guide francophone locale qui est tout à fait exceptionnelle et sur laquelle on peut compter et qui raconte beaucoup d'anecdotes, qui permet de faire rêver, qui a des photos qu'elle partage avec les voyageurs virtuels, j'entends. Et donc, on a commencé des sessions avec elle, c'était fin avril, sur différents thèmes comme l'Égypte ancienne. Donc, c'était d'abord les croyances de l'Égypte ancienne. Ensuite, on a visité les pyramides avec elle. C'était vraiment incroyable puisqu'on pouvait vraiment visiter les pyramides telles qu'elles sont. C'est très concret, en fait, ces sessions, parce que on comprend peut-être encore mieux que si on était sur place, parce que le guide montre aussi des plans de coupe. On voit la chambre funéraire, l'entrée de la pyramide. Et cette séance a eu tellement de succès qu'on l'a refait samedi, là, le 9 mai.
Oui, le but, c'est effectivement de faire découvrir et puis peut-être de donner envie d'y aller en vrai après. Je précise que c'est payant et que ça permet de maintenir aussi le travail hein, des guides sur place qui sont actuellement, évidemment, sans ressources. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. La France Bouge continue, 13h29.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr, si les vacances sont autorisées, mais près de chez vous, comment allons-nous nous évader sans aller trop loin? Vous allez voir que le secteur y réfléchit pour nous.
Europe 1. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Il est 13h31 et c'est vrai qu'on attend tous hein, de savoir si la carte verte et rouge va perdurer cet été, si nos déplacements seront contraints ou si l'étau va un peu plus se desserrer. Il est donc possible que nous ne puissions pas aller au-delà de 100 km autour de chez nous. Alors, des initiatives voient le jour. Bonjour Martin Zalik.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête de Linkaband et vous avez lancé un été en France, hashtag un été en France. L'idée, c'est d'aider gratuitement justement les hôteliers, les restaurateurs à créer des événements pour attirer du monde en montant justement des concerts, en les mettant en relation avec des artistes.
Tout à fait. Nous, en fait, Linkaband, c'est une communauté de 15 000 musiciens et DJ que vous allez pouvoir réserver pour vos événements. Donc, vous organisez un mariage typiquement et vous allez venir sur notre plateforme. Et vous allez avoir accès à des musiciens que vous pouvez réserver. Donc, on travaille d'un côté avec des artistes qui sont extrêmement durement touchés par la situation. 90% de nos artistes sont des intermittents du spectacle. On avait à peu près 1 000 000 de réservations là pour le début de l'année et on a discuté beaucoup avec nos intermittents au téléphone. Et il y a des situations qui sont très alarmantes du côté des artistes. Et de l'autre côté, on met en relation ces artistes avec des organisateurs. Donc, ça va être des agences événementielles, ça va être des particuliers et beaucoup d'hôteliers restaurateurs. On travaille avec pas loin de 700 hôtels et restaurants dans toute la France et ils sont aussi également dans une situation assez délicate. Je pense que les témoignages que vous avez eus avant révèlent cette situation. Et notre modèle, du coup, est un modèle d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire que côté artiste, il n'a plus à s'occuper d'aller démarcher des clients. Et côté organisateur, un hôtelier n'a plus à gérer la facturation, etc. Et on prend une commission sur la transaction, c'est notre modèle d'affaires.
Vous en parlez, Martin, qu'à l'instant, Emmanuel Macron vient de dire que les droits des intermittents du spectacle seraient prolongés d'une année au-delà des 6 mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021. C'est important de le dire, je pense, à ce moment-là de l'émission, puisque ça vient tout juste de tomber.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une super nouvelle et je pense qu'on l'attendait et on a eu... On avait, nous, au téléphone, des intermittents qui étaient vraiment perdus. Et vraiment, quand je parle d'une situation alarmante, c'était pour certains d'entre eux se dire « Est-ce que je vais arrêter mon métier de musicien professionnel ?» Donc, ils en étaient là. Ou en tout cas, de devenir indépendant. Donc, il y avait vraiment des situations qui étaient assez cata. Mais si je reprends du coup... Ouais.
Oui, vous avez du coup combien d'établissements qui sont déjà d'accord pour fonctionner avec vous sur ce système-là à partir du moment où les hôtels et les restaurants peuvent rouvrir?
Alors du coup, donc nous l'idée, pour précision, c'est de justement sur des hôteliers-restaurants, des hôteliers et des restaurateurs qui vont réouvrir, de leur offrir notre commission. C'est-à-dire que déjà, sur la réservation d'un artiste pour un concert, ils vont avoir un minima 20% de réduction. Et ensuite, évidemment, nous, l'idée, elle vient aussi, elle émerge d'artistes qui sont venus vers nous, de musiciens, et qui nous ont dit... Moi, pour la reprise, je serais prêt à baisser mes tarifs. Mais là, on ne parle pas de jouer gratuitement, mais on parle de baisser les tarifs pour être plus attractif, pour rencontrer des nouveaux clients, etc. Donc l'idée, c'est nous de sortir de notre commission pour un concert pour cette reprise et les artistes de faire un effort de l'autre côté. Et aujourd'hui, on a eu 150 restaurateurs et hôteliers dans toute la France au téléphone qui sont, je pense, enfin, c'est ce qu'ils disaient dans vos témoignages avant, qui sont dans l'expectative, qui attendent, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Et je pense on discute beaucoup avec eux et c'est des gens qui, leur métier, c'est de recevoir, leur métier, c'est l'expérience client. Et là, ils sont vraiment dans la frustration de ne pas pouvoir exercer ce métier. Donc, ils nous appellent en se disant, j'ai envie de faire ça au moment de la reprise, mais ils n'ont aucune idée de comment ça va se passer. Et il y en a beaucoup sur des, je pense notamment aux hôteliers indépendants, qui n'ont pas forcément de vision sur justement les normes d'hygiène qu'il y aura à respecter, comment les appliquer, etc. Donc c'est clairement pas évident pour eux, et également pour les restaurants parisiens, c'est assez difficile.
Très bien, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille ensemble Franck Lefeuvre, qui a lui aussi une autre initiative solidaire, comme pour les librairies, comme pour les cafés, acheter maintenant et consommer une nuit d'hôtel ou un repas plus tard. C'est la raison pour laquelle vous avez fondé le hashtag 40AIM. Bonjour Franck Lefeuvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est quoi ? C'est une boutique solidaire, on peut le dire comme ça ?
C'est exactement ça, c'est une boutique cadeau. En fait, on peut retrouver des expériences qui sont proposées par des établissements aux quatre coins de la France. Donc on peut retrouver des spas, des restaurants gastronomiques ou bistronomiques, des cours de cuisine, de sourds en parachute, des vols en montgolfière. Bon, l'idée, c'est en fait de mettre en avant notre belle destination qui est la France, avec des établissements qui, comme je disais tous les intervenants depuis quelques jours, c'est dur pour eux, les hôtels-restaurants, ils subissent de plein fouet la crise, et c'est vrai que ça permet de les mettre en avant et d'inciter les gens qui ont, finalement, on a toujours des bonnes occasions de faire des cadeaux aujourd'hui. Il y a des anniversaires, ça ne s'arrête pas, on va bientôt avoir la fête des pères, la fête des mères, et en fait, c'est un moyen de faire un cadeau utile et de soutien envers ces établissements qui en ont bien besoin. Et en fait, dans le cadre... Oui, je vous en prie.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, dans le cadre de l'opération, en fait, l'idée, c'est aussi de faire une opération utile, en plus de soutenir les hôtels-restaurants, avec 5% des ventes qui vont être versées à la Fondation de France pour l'opération Tous Unis contre le virus.
Oui, c'est ça, 5%, c'est votre participation, c'est le moyen de montrer qu'effectivement, même quand on continue à consommer, on peut être solidaire et on peut participer. Il y a beaucoup d'hôteliers, beaucoup de restaurateurs qui vous ont fait remonter leurs difficultés et qui adhèrent finalement à ce que vous faites aujourd'hui.
Ah oui, malheureusement, c'est impressionnant le nombre de messages de retour qu'on a pu avoir des hôteliers restaurateurs qui subissent la crise et qui sont, pour beaucoup d'entre eux, un petit peu désemparés par la situation, parce qu'en fait, ils vivent dans un monde d'incertitude, ils ne savent pas quand ils pourront réouvrir, dans quelles conditions, par exemple, sur les restaurants, les contraintes d'hygiène vont être catastrophiques. Et c'est vrai que nous, on leur garantit pas, en fait, de sauver leur établissement. Acheter un bon cadeau, c'est soutenir la trésorerie de l'établissement. Maintenant, c'est un geste, en fait, ils se sentent vraiment... Il y a un aspect psychologique aussi de la démarche où ils se sentent soutenus, que ce soit par nous en tant que fournisseurs de technologie ou par toutes les personnes qui vont vraiment participer à l'opération.
Oui, on sent bien cette solidarité se mettre en place. Cette solidarité, elle s'exprime aussi, et vous l'avez dit, avec ces 5% qui seront reversés à Tous Unis contre le virus, elle s'exprime aussi pour les soignants, Elisabeth, puisque certains hôteliers, certains restaurateurs ont décidé de se bouger pour finalement leur offrir leurs vacances.
Oui, et ça s'appelle le repos des héros, cette initiative. Cette initiative se multiplie pour offrir aux soignants des séjours ou des bons vacances à utiliser pour leur congé d'été. Et donc fin mars, c'est le département des Pyrénées-Atlantiques qui a été le premier à lancer cette opération. Le repos des héros, qui offre aux soignants 200 bons vacances d'une valeur minimale de 500 euros pour des séjours en Béarn, Pays Basque. Ça a commencé donc au Pays Basque. D'autres départements ont trouvé l'idée formidable et donc ils ont décidé de faire la même chose. Par exemple, le Var, qui met à disposition 1400 lots, des séjours, des week-ends, des visites, des découvertes gastronomiques ou viticoles, ce qui sont des lots offerts par des hôtels, par des campings, par des restaurants, aux soignants varois, mais aussi aux policiers, aux gendarmes, aux caissiers ou encore aux agents de nettoyage. La solidarité se développe un peu partout, même
ouais.
pour les vacances.
Oui, et dites-moi, est-ce qu'on va beaucoup partir en vacances, on le sait ou pas, Elisabeth ? Manifestement, on va réduire la durée, non ?
Alors, la durée, j'en sais rien, mais il y a un sondage qui a été publié dans le JDD, un sondage IFOP pour le JDD, qui montre que 46% des Français ne comptent pas partir en vacances cet été, soit parce qu'ils ne veulent pas se déplacer, soit parce qu'ils seront obligés de travailler, ou encore par manque de moyens financiers. Donc, ce n'est pas réjouissant à l'heure qu'il est.
Ouais, d'où l'utilité effectivement des bons que vous êtes en train de mettre en place un petit peu partout en France. Et on vous remercie de ces initiatives solidaires. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, 13h40. La France bouge continue.
Europe 1.
Redécouvrir le patrimoine à côté de chez soi, c'est aussi le moyen de voyager sans parcourir des milliers de kilomètres.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h42 sur Europe 1, nous essayons d'anticiper parce que nous avons tous envie de partir en vacances cet été. Et si la France est une destination touristique par excellence, c'est aussi parce que c'est un territoire chargé d'histoire. Et avec les contraintes qui se dessinent pour les congés, c'est un argument à prendre en considération. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal d'initiatives qui se dessinent dans les régions notamment pour essayer de faire du tourisme de proximité. Bonjour Caroline Manins.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la directrice de Tarn-et-Garonne Tourisme et vous proposez des visites virtuelles pour nous aider à nous préparer à choisir notre destination et à redécouvrir peut-être votre région. C'est quoi une visite virtuelle de chez vous? Comment on peut s'évader dans son canapé?
Donc, du fait de ce confinement, voilà, nous avons décidé de mettre en place ces visites virtuelles qui sont au nombre de 9 en créant une page dédiée sur notre site internet. C'était un bon moyen de s'évader en période de confinement et une autre façon de découvrir ou redécouvrir notre beau département, effectivement, depuis son canapé. Donc là, vous avez juste à dépasser la souris et d'explorer. Donc ces visites, ces lieux de visite sont effectivement insolites et donc visites virtuelles. Ça va de patrimoine, ça va à des villages. Donc ça vous permet de découvrir ou redécouvrir la destination de Tarn-et-Garonne, donc dans notre belle région d'Occitanie, qui va permettre, si vous voulez, au public et aux habitants de Tarn-et-Garonnais de se recentrer sur leur destination pour les vacances, mais également tout le public de la région Occitanie et la France. Voilà.
Oui, vous allez même plus loin, parce que j'ai vu que vous proposiez des cocktails à base d'alcool locaux, des portraits de chefs qui donnent leur coup de cœur touristique. Vous avez même lancé un jeu des 7 erreurs.
Oui, alors ça c'était un petit peu pour rendre plus dynamique ce confinement. Effectivement, nous sommes un terroir voué à la gastronomie. Nous sommes le verger du Sud-Ouest, donc nos productions locales devaient être mises en avant. Il y a, comme dans beaucoup de départements, il y a une chaîne de solidarité qui s'est faite autour de ces produits locaux. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On a nos producteurs qui ont fait des dry fermés. Donc ça, c'était aussi la valorisation de notre destination au travers de notre gastronomie. Et effectivement, ça, c'est toute l'équipe de Tarn-et-Garonne Tourisme qui a décidé de travailler un petit peu ces cocktails made in Tarn-et-Garonne pour donner l'envie aux Tarn-et-Garonnais de passer de bons moments, mais aussi de belles recettes de cuisine, des portraits de chefs et de producteurs et de jeunes agriculteurs.
Votre ambition, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer qu'on peut continuer finalement, même pendant cette période délicate, à vivre du tourisme local?
Oui, c'est très important de valoriser sa destination au travers de son tourisme, comme vous dites, de terroir local. Vous savez, on est un département de campagne, une destination de campagne qui sera sûrement une destination de choix après le confinement parce que c'est une destination, le Tarn-et-Garonne et une partie de la région Occitanie, qui va permettre de se reconnecter avec la nature. Nous avons de grands espaces, tout ce qui est autour de l'itinérance douce. Donc c'était vraiment de montrer cette authenticité de destination qu'est le Tarn-et-Garonne. Voilà, petit département, jeune département, mais avec beaucoup de pépites et de richesses.
Oui, vous restez avec nous. Je me tourne vers vous, Elisabeth. Si on souhaite, par exemple, alors dans le Tarn-et-Garonne ou ailleurs, hein, d'ailleurs, réserver un appartement ou une maison, je crois qu'il y a des plateformes en ce moment qui se mobilisent pour garantir le remboursement.
Oui, alors vous avez PAP Vacances qui lance la garantie de remboursement Covid-19 pour réserver ses vacances d'été. C'est un contrat qui oblige le propriétaire à rembourser les sommes versées par le locataire si le locataire ne peut pas se rendre sur le lieu de la location en raison des dispositions réglementaires qui sont mises en place par l'État liées donc à la lutte contre le coronavirus. Vous avez le Club Med par exemple. Alors le Club Med, ils ont transformé déjà depuis le début du confinement leur en avoir, des avoirs que reportables sans frais et valables pendant 18 mois. Et dans le cas où un nouveau projet de voyage serait moins cher, la différence ferait là aussi l'objet d'un nouvel avoir. Pour inciter les clients à revenir, le groupe a même prévu de renforcer les mesures de sécurité sanitaire avec le respect strict des gestes barrières. Le Club Med, c'est le séjour qui se passe dans une seule unité de lieu. Donc ça pourrait être peut-être plus facile à organiser avec les grands espaces, le plein air, ça pourrait être davantage organisé. Vous avez encore Pierre et Vacances qui met en place des conditions de réservation beaucoup plus flexibles en ce moment.
Vous avez l'intention de pérenniser justement les initiatives que vous allez mettre en place pendant ce confinement, Caroline Manins,
après,
sa vocation à rester?
Bien sûr, on est en train de réfléchir avec toute l'équipe de Tarn-et-Garonne Tourisme à développer ces lieux de visite virtuels, à faire découvrir la destination. Autrement, on le sait, hein, le canal numérique a pris une part importante depuis ce confinement. On sait aussi que les visiteurs de nos destinations cet été, ils seront majoritairement équipés de smartphones et habitués à l'information digitale. Donc, il est important de continuer ce travail. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va développer, continuer à... Vous savez, on a toujours... Alors, on est un département où on travaillait déjà ce tourisme de proximité et français, puisque nous, notre clientèle française, c'est 59% et 41% de clientèle étrangère sur la destination Tarn-et-Garonne. Donc ce travail de proximité, on l'a déjà travaillé, c'est une volonté du département, effectivement, de mettre en avant ces richesses. Et quand on voit tout ce que les productions locales ont fait pour que nous puissions manger. Je dis, à un moment donné, c'est le retour aux vraies valeurs. Je crois que les visiteurs qui vont venir à la destination de Tarn-et-Garonne ont envie de se retrouver, j'espère, autour de nos beaux marchés. Nous avons des petits villages vraiment authentiques, pittoresques, à échelle humaine, où il n'y a pas
en
ce
tout cas, vous,
de
vous nous donnez envie de venir. Hein. Je peux vous dire que ça s'entend dans votre voix. Vous restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille Christian Clark de Dromantin qui nous a rejoint, qui a cofondé Patrivia et le collectif Patrimoine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a eu des petites difficultés à vous joindre, mais ça y est, vous êtes avec nous en direct.
Oui,
il existe depuis un an, hein, ce collectif. En revanche, l'association, elle est née en mars avec un hashtag « Cet été, je visite la France ». Le patrimoine qui ne pourra pas se visiter de la même manière va être lui aussi durablement touché par les effets de la pandémie. Donc, vous vouliez faire quelque chose?
Oui, absolument. En fait, la plupart des châteaux et des musées pensent qu'ils vont avoir une année où ils vont faire à peu près 50% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour eux parce qu'en fait, la plupart des visites se réalisent pendant l'été. Et donc, par rapport à ça, Patrivia a décidé de leur venir en aide avec diverses solutions. Et notamment, vous pouvez, depuis la plateforme de réservation, réserver par jour, par heure, par nombre de personnes. Comme ça permet en fait de pouvoir canaliser le nombre de personnes qu'il peut y avoir au même moment dans un château ou un musée. Et également, on a la possibilité de fournir jusqu'à 1 million de masques homologués aux normes ISO et conformité européenne. Du gel homologué.
Autour de vous, il y a justement des gestionnaires de monuments historiques, des start-up, des gens qui travaillent justement dans ce milieu, qui se sont regroupés pour essayer de mettre en avant le patrimoine.
Bien sûr, et c'est là où est né le patrimoine 2.0, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se rassembler? Et ensuite, la deuxième chose, c'était qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les pouvoirs publics à trouver des solutions pour pouvoir permettre que la crise se passe le mieux possible dans l'état des choses.
Combien de lieux? 450 lieux, je crois, en France, mais aussi un petit peu en Belgique.
Tout à fait. Et la campagne « Cet été, je visite la France » a eu un très bel écho. On a eu un peu plus de 2 millions de vues depuis le début de l'opération. Et JC Deco nous a gentiment mis à disposition un peu plus de 390 écrans un peu partout en France jusqu'à la fin du confinement pour pouvoir participer à la promotion des territoires et notamment de dire, vous consommez local, n'oubliez pas que cet été, vous aurez l'opportunité de visiter des châteaux et des musées. Vous pourrez aller dans la campagne vous faire du bien. Le beau, ça fait du bien. Profitez-en. C'est vraiment incroyable. Et cette campagne a été reprise en Suisse et en Allemagne, et notamment sur l'île de la Réunion. Donc, on a dépassé un message au-delà des frontières de l'Hexagone.
C'est un très beau message et c'est vrai que ça nous permet aussi peut-être de porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Je voudrais qu'on termine avec des initiatives locales, puisqu'on est en plein dans nos terroirs, Elisabeth, notamment pour aider et soutenir les commerçants et les restaurateurs. Je crois que vous en avez trouvé du côté de la Normandie.
Eh oui, à Trouville, dans le Calvados. Ils ont décidé de mettre en place une démarche solidaire et citoyenne pour soutenir les commerçants, les prestataires de loisirs, les restaurateurs de la commune. Ils ont lancé donc une campagne de bons d'achat pour soutenir tous ces acteurs locaux, les restaurants, les prestataires de loisirs de Trouville. Donc l'idée, c'est d'offrir aux habitants et aux vacanciers la possibilité d'acheter aujourd'hui des bons d'achat dans tous les commerces. Ils seront valables pour une durée de 12 à 24 mois. Il s'agit de produits, de nuits d'hôtel, des repas, des activités de loisirs, des stages ou encore des ateliers.
Merci pour toutes ces précisions, Elisabeth. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, évidemment.
À demain.
Pour montrer que la France bouge même confinée. Et on va s'intéresser aux nouveautés qui vont arriver dans nos espaces de travail pour assurer notre sécurité sanitaire.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h55, c'est l'heure de retrouver vos questions et les réponses de notre expert, l'avocat Roland Pérez, nous rejoint comme chaque jour avant 14h. Bonjour Roland.
Bonjour Raphaël, il fait beau hein, sur Paris, c'est difficile hein, de rester confiné aujourd'hui.
Exactement, on va ouvrir la fenêtre, ça va aller.
Ouais.
Cara, une question pour vous. Alors Cara, elle se demande comment ça va se passer pour les fonctionnaires, figurez-vous Roland. Ont-ils le droit au chômage partiel quand ils gardent les enfants à la maison? C'est une question.
Alors, les fonctionnaires, c'est une situation un peu particulière. En fait, ils ont droit un peu au même régime que les salariés privés, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une autorisation spéciale d'absence, que ce soit des fonctionnaires, on va dire, classiques ou des fonctionnaires même contractuels. Donc, c'est une autorisation spéciale d'absence. C'est le même régime, c'est-à-dire que depuis le 1er mai, ils peuvent continuer à bénéficier de cet arrêt maladie comme au début du confinement qui a été prévu, qui a été mis en place pour garder leur enfant. Ça va être possible jusqu'au, on va dire, 30 mai, 2 juin. Vous savez, c'est les fameuses règles jusqu'au 2 juin. On peut encore refuser de mettre ses enfants à l'école, même si les écoles ont réouvert progressivement. En revanche, à partir du 2 juin, et c'est le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Action et des Comptes Publics qui s'occupe des fonctionnaires qui dit qu'à partir du 1er juin, eh bien, l'accès à cette mise en autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants sera limité et s'articulera autour de la possibilité ou non d'accueil des enfants, des agents publics, soit des fonctionnaires ou des contractuels, dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que si on fait la preuve que l'établissement scolaire ne peut pas recevoir l'enfant, eh bien on bénéficiera encore de cette autorisation après le 2 juin. Si c'est pas le cas, en revanche, on va se retrouver comme les salariés de droit privé, obligés d'aller travailler, de trouver un mode de garde de son enfant ou de prendre des congés sur ses propres congés. C'est ce qui va se passer pour ces fonctionnaires, comme d'ailleurs pour les salariés de droit privé.
Voilà donc pour la réponse à Cara. Vous pouvez continuer évidemment à nous laisser vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Roland vous y répond. Comme pour Paul, tiens, par exemple, qui lui travaille dans une salle de spectacle. J'imagine bien, dit-il, qu'elle ne rouvrira pas tout de suite. Les choses sont en train de se préciser, vous l'avez vu. Je suis en CDI et en chômage partiel. Ai-je le droit de passer le temps en faisant des formations ou en travaillant pour d'autres entreprises en même temps? Bonne question.
Oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée puisque dès le début d'ailleurs de la mise en place du chômage partiel, surtout pour les entreprises qui vont continuer à rester fermées parce qu'à partir du 11 mai, les choses vont un peu changer, mais pas pour les entreprises, hélas, du spectacle, même si on a les précisions là sur peut-être la réouverture progressive ou non des conditions dans lesquelles ces salles de spectacle vont pouvoir ouvrir. En tout cas, oui, la bonne nouvelle, c'est que les actions de formation certifiantes ou non, les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l'expérience, vous savez, ces fameuses VAE, vont pouvoir se faire. Elles vont être réalisées, évidemment, à distance. Et c'est les entreprises, donc l'entreprise de spectacle pour laquelle ils travaillent, qui doit établir, c'est d'abord la liste de ceux qui veulent bénéficier de cette formation, qui doit se rapprocher de la direction régionale de l'emploi, pour établir une convention simplifiée qui va permettre cette prise en charge. Et c'est vraiment un avantage pour le salarié qui va en bénéficier, puisqu'il va bénéficier d'une formation sans mobiliser son compte personnel de formation. Il va évidemment conserver son emploi après cette formation. Et puis, la seule condition aussi, c'est que la durée de la formation ne doit pas dépasser la période d'activité partielle. Et puis pour travailler, en revanche, c'est aussi une très bonne nouvelle. On peut travailler pendant le chômage partiel, c'est tout à fait possible. Il y a deux situations qui sont prévues par la loi et par la crise due au Covid. La première concerne ceux qui sont en chômage partiel et qui souhaitent venir en aide justement au secteur d'activité qui manque de main d'œuvre. Et le contrat de travail, bon là, est suspendu, donc il va simplement faut que Paul en informe son employeur, lui dire qu'il va travailler pour tel autre nouvel employeur. Faut pas que ce soit une entreprise évidemment concurrente, mais on imagine que ça ne sera pas puisque toutes les entreprises de spectacle sont logées à la même enseigne. Et auquel cas, il va pouvoir cumuler à la fois son indemnité pour chômage partiel et son nouveau salaire. Et puis il y a une initiative un peu plus solidaire où c'est lui l'employeur qui va mettre à la disposition ses salariés auprès d'une autre entreprise. Là, il n'y a pas de gain pour le salarié. Simplement, il va travailler le temps du chômage partiel pour une autre entreprise. C'est beaucoup plus solidaire et ça s'est fait également, ça s'est vu et c'est plutôt bien aussi.
Oui, c'est bien, vous avez raison. On s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à notre disposition. Hein. Il suffit effectivement de se pencher sur la question. C'est parfois un peu touffu, mais heureusement, vous êtes là, Roland, pour nous éclairer. On vous retrouve demain, juste avant 14h, pour répondre aux questions des auditeurs sur le 3921 et le hashtag Radio Ouverte.